Bonjour à tous, nous allons commencer. Je vous invite les dernières personnes à s'installer pour ne pas prendre trop de retard. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Ténèche, je suis la directrice des abattoirs et je suis ravie de vous accueillir en cette heure matinale, un samedi à Toulouse pour la scène punk, pour donc cette première journée régionale sur la scène punk. Dans le grand programme de recherche qui est mené par Luc Robben, qui est professeur à l'Université de Bordeaux, et par Sol Wexter, qui est chargé de recherche au CNRS. Donc, je suis ravie d'accueillir particulièrement Solveig, puisque nous sommes toutes les deux quasiment des mêmes promotions d'École des Chartes, et je suis ravie d'accueillir ce projet aussi, parce que c'est le premier projet qu'on m'a proposé d'accueillir lorsque j'étais nommée à la direction des abattoirs. Donc c'est un projet un peu... Donc je suis encore plus ravie de vous accueillir ici. Donc on sait qu'on vous accueille après un très grand succès, il y a 15 jours du colloque à la Philharmonie à Paris, dont on est beaucoup à avoir entendu parler dans la presse et à la radio. Et c'est donc un projet au long cours que cette étude de la scène punk à Toulouse. Et cette semaine, quelqu'un m'a envoyé un article sur le fait qu'il y a à peine quelques jours, le fils de Norman McLaren avait détruit pour 6 millions d'objets liés aux Sex Pistols. En tout cas, je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, mais en tout cas, on m'a envoyé cet article et j'ai trouvé ça assez étonnant parce que ce sera un peu l'idée qu'il y aurait no future et no past, et on sait très bien que tout ça est faux. Donc, c'est encore plus intéressant de voir ça aujourd'hui et se dire que tout aujourd'hui fait histoire, mais qu'est-ce que c'est que faire l'histoire d'un mouvement qui disait pas de futur et qui sûrement pas de traces. Donc, je voulais aussi vous signaler qu'actuellement, dans le programme des abattoirs, donc les expositions ouvrent à partir de midi, donc entre midi et deux, vous pouvez aller voir les expositions. Il y a une œuvre de Vincent Bettebez dans le programme Mezzanine Sud, dont aléatoirement, trois fois par jour, il y a un AK qui est la reprise d'un groupe punk d'Europe du Nord qui d'un seul coup, surgit dans sa salle d'exposition et tout s'éteint. Donc, c'est aussi une autre forme d'attitude, puisque cette œuvre-là, je ne sais pas quand vous dire d'aller la voir, puisque c'est aléatoirement trois fois par jour. Donc c'est aussi ça, un autre lien entre le punk et les arts visuels. Et je laisse la parole donc, à Sol Wexter et à Luc Robben. Et je voudrais aussi remercier Monique Blanquet de Radio Éphémère pour avoir participé également à l'organisation de cette journée ici. Merci beaucoup.
Attends, non mais si t'as du son. Il faut basculer l'écran.
Il y a du son sur celui-là, non ? Bah autrement, on va se partager. On va se partager. Oui.
Attends, c'est mieux qu'on en ait deux. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus si nombreux pour un samedi matin, c'est jamais très facile. On remercie beaucoup les abattoirs qui nous accueillent ici plus que royalement et par un heureux hasard, Annabelle l'a rappelé, on se connaît depuis longtemps et elle est arrivée en septembre et ça s'est vraiment bien connecté. Et puis on remercie Radio Éphémère pour organiser tout ça dans le cadre de leur anniversaire, de leurs 35 ans. C'était une rencontre de un an et demi maintenant et on est très contents que ça ait prospéré jusqu'à la journée d'études d'aujourd'hui. Alors nous, on est venu vous présenter un tout petit peu notre projet pour que vous compreniez pourquoi on est là aujourd'hui et en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on va faire pendant au moins 4 ans parce qu'on a vendu ça pour 4 ans, mais en fait, ça durera beaucoup plus longtemps. La France, c'est grand, donc avant de quadriller tout le territoire, ça mettra plus de temps. Alors c'est au cours de l'été 1976 que simultanément aux États-Unis, en Australie, en Angleterre et dans de nombreux pays d'Europe comme la France, une multitude de formations musicales sont brutalement désignées dans la presse ou s'autodésignent comme punk, un terme argotique, un vieux terme qu'on retrouve chez Shakespeare donc bien avant, qui est synonyme de vaurien, voyou, homosexuel, prostitué, pourri, sans valeur, enfin quelque chose qui n'est pas très recommandable. Défini par Dick Ebbidge dans un ouvrage qui a fait date et un ouvrage vraiment séminal contemporain de la première vague punk, comme un amalgame contre nature, je cite, une alliance improbable et mystérieuse de traditions hétérogènes et apparemment incompatibles, tous ces groupes ont en commun la volonté de faire table rase de l'histoire du rock au moyen d'une musique qui revendique la simplicité. Vous connaissez tous l'injonction du fanzine Sniffing Glue, voilà trois accords, maintenant faites un groupe. Des textes qui se moquent des conventions sociales et politiques et une attitude énergique et provocatrice. Cette cacophonie sonore se double d'une cacophonie visuelle avec un répertoire vestimentaire tout aussi éclectique que la musique. Et donc le punk fait feu d'un héritage complexe et riche dont il se nourrit et qu'il cherche à dépasser dans un refus des codes, des formes académiques de la culture et des modèles établis de la contre-culture. Alors nous, je vais juste sur la diapo d'après, voilà. Nous, on est dans le contexte français et pas anglo-saxon. Vous voyez, vous avez tous reconnu Valéry Giscard d'Estaing dans un petit fanzine qui s'appelle L'École des Sauvages qui traitait du festival de Mont-de-Marsan. Donc on est dans la France de Giscard où bruissent encore les échos du gaullisme finissant et l'explosion punk qui est marquée dès l'été 1976 par le festival de Mont-de-Marsan prend à revers la morosité ambiante. On est dans un contexte de crise économique, de forte hausse du chômage et clame son refus de l'ennui. Les formations choisissent pour l'essentiel de s'exprimer en français, et donc pas en anglais. Et le mouvement va trouver un premier achèvement en 1978, lorsque les groupes emblématiques se sabordent et qu'une partie des scènes occidentales disparaît, débordée par le succès de nouveaux courants musicaux comme la New Wave ou le disco. Pour autant, la dynamique punk va trouver en France un second, puis un troisième souffle, réinventant jusqu'à aujourd'hui le son et l'être punk. Et c'est l'étude de cette histoire en recomposition, de ses paradoxes et de ses fragilités qui constitue le cœur de notre projet. Alors juste pour que vous ayez en tête, parce que ce n'est pas après tout évident de savoir, on met juste un petit bout de Star Shooter.
Give it to where your arms belong! Yeah.
sport.
Ouais, les excellents star shooters de Lyon. Vous avez reconnu Kent, qui a fait la carrière qu'on connaît par la suite. Voilà. Alors, pour continuer, pour enchaîner sur ce que disait Solveig, on est parti d'un constat, c'est que cette culture-là, cette musique-là, il n'y avait pas grand-chose de fait en France. Alors, à la différence de ce qui se pratique chez nos amis anglo-américains avec les travaux de Hepditch qui ont été cités ici, ou même en Australie avec Bennett, en fait, en France, en dehors de quelques petits travaux très ponctuels et très ciblés, il n'y avait pas d'approche globale du mouvement punk, si tant est qu'on puisse parler de mouvement encore à l'heure actuelle, mais disons de cette énergie punk sur à partir de 76. Et on a considéré évidemment qu'il y avait un grand intérêt à engager un projet ambitieux global sur l'histoire de cette scène punk. Alors, quels sont les caractères ambitieux de ce projet? L'un des défis majeurs, c'est justement pour nous de conférer à cet objet, le punk, une légitimité scientifique, académique et surtout une visibilité, à rendre visible cette culture. Pour l'instant, on considère que c'est quelque chose qui est cette légitimité qui est contestée au punk. Alors, le punk est un objet illégitime. Pourquoi ? Parce que non content d'être considéré avec circonspection dans la société, le punk est souvent réduit à l'image du punk à chien, eh bien, au marginal, ou tatoué, percé. Le punk a aussi un statut problématique dans le champ académique en France. Pour le dire vulgairement, le punk, ça pue. Et au niveau universitaire, c'est quand même un petit peu compliqué d'engager un projet de cette nature-là. Bon, c'est un objet, deuxièmement, vulnérable. Notre recherche présente quand même un caractère d'urgence, celui de sauvegarder une mémoire qui est en train de s'éteindre en raison notamment de la vulnérabilité particulière des acteurs et du caractère, disons, périssable non seulement des hommes, mais également des supports et de l'archive, on en reparlera. Il s'agit donc de faire surgir l'archive, de relever le défi de la mémoire aussi, on y reviendra, et de relever le défi d'une certaine manière de la préservation de cette musique, de cette culture, voire, alors ça peut se discuter, mais de la patrimonialisation du punk en France, à travers un minutieux travail de collecte, de valorisation, d'analyse et d'interprétation des archives de la scène punk en France. Alors je disais, c'est aussi un objet difficile parce que la nature même du punk est problématique. L'objet se plie mal aux études académiques. Le punk refuse même d'être défini en soi. C'est quelque chose d'assez compliqué. Rejette toute méthode, renie l'idée même d'histoire et d'expertise. Donc pour nous, ça a été quand même un défi d'engager ce travail de recherche et de prendre contact, d'aller au contact des acteurs de cette scène punk. Alors, notre projet entend mobiliser la notion de scène pour aborder, comme prisme d'analyse, pour aborder le punk. C'est un outil qui nous permet de repenser de manière dynamique les pratiques musicales, puisqu'on part de la musique, ça c'est quelque chose auquel on tient. La musique est vraiment centrale. Le punk, c'est au départ la musique. Et puis, alors c'est la musique, c'est les musiciens, le public, et puis c'est tout un réseau d'acteurs autour de la musique, disquaires, sondiers, magasins de musique, etc. Radio, on l'a vu avec Radio Éphémère, par exemple, sur cette scène toulousaine. Et puis, au-delà de la musique, évidemment, un certain nombre d'usages sociaux, de pratiques artistiques, sociales, etc. Bon, voilà. Mais au cœur, il y a la musique. Alors, le projet s'articule autour de trois grandes hypothèses. Moi, je dirais, en fait, trois grands paradoxes. On est parti des choses qui nous interpellaient et qui font débat, de toute façon, et qui posent problème. Le premier paradoxe, c'est le paradoxe du temps. Alors, ça a été rappelé par Annabelle tout à l'heure. En fait, quelle est cette curieuse musique, culture, le punk, qui disait ne pas avoir de futur et puis qui est là depuis 40 ans? Donc la première question, elle est évidemment autour du temps. Puis alors, cette question-là appelle d'autres questions. Est-ce que le punk s'est arrêté en 78, comme le rappelait Solveig, ou est-ce qu'il s'est réinventé? Comment s'est-il réinventé? Comment appréhende-t-on 40 ans d'histoire pour les plus jeunes ou les plus anciens? On est face en fait à des choses très très intéressantes, notamment des débats autour de la mémoire,
autour de l'identité, autour de la manière de se considérer punk ou pas, etc. etc. Bon. Le deuxième paradoxe, c'est un paradoxe, je dirais, culturel et géographique. On a longtemps considéré qu'il n'y avait pas d'histoire du rock ou du punk à faire en France, je le disais en introduction. Nous, on souhaite montrer qu'il y a une réelle musique, culture punk en France, travailler sur la notion de transfert culturel, hein, dans les deux sens d'ailleurs, par exemple entre l'Angleterre et la France, mais entre la France et l'Angleterre, et en tout cas montrer que le punk en France ne se réduit pas à un pâle décalque de ce qui aurait pu se passer ailleurs, mais qu'il y a une culture authentique, une musique authentique punk en France, et ce depuis 40 ans. Et alors l'autre aspect fondamental, c'est considérer aussi que le punk, c'est pas Paris, évidemment, ou pas seulement la scène parisienne, mais que partout en France, et pas seulement dans les grandes villes comme Bordeaux, Toulouse, Rennes, mais également dans des villes moins importantes en apparence, je pense ici à Fumel par exemple, pas très très loin, hein, il y a des scènes qui ont développé de manière assez intense et assez dynamique le punk, qui l'ont vécu, qui se sont nourris de cette culture. La troisième interrogation, paradoxe, ou en tout cas on peut le poser comme ça, c'est ce qu'on a appelé le paradigme punk, c'est-à-dire: quelle est cette musique, cette culture qui prône l'anarchie, la déconstruction des codes, qui atomise en quelque sorte un petit peu tout, les codes, l'establishment, etc. Et puis qui en même temps présente un certain nombre de cohérences dans le temps. Alors nous, on a abordé ça sous l'angle des générations, mais on voit bien que entre ce qu'on pourrait appeler la génération épingle à nourrice, hein, de 77 et tout ce qui va avec, et puis la génération suivante de l'anarcho-punk dans les années 80, on a changé de look, on a changé d'esthétique, on a changé de son, on a changé de musique, et puis que dire de l'hypothétique troisième génération des années 90-2000. Donc c'est travailler sur cette espèce d'ambiguïté entre la musique qui déboulonne, qui déconstruit les codes, le punk qui déboulonne, qui déconstruit, qui revendique finalement absence de code, et puis qui en réalité construit malgré lui ou avec ce qu'il porte un certain nombre de cohérences. Voilà. Alors tout ça nous a amené à poser ces trois hypothèses sur, je dirais, huit chantiers importants que Solveig va rapidement évoquer.
Alors, juste avant, elle est périmée parce que depuis il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints. Ça, ah, c'était, oui, notre équipe en juillet de 2016. Donc c'est c'est une équipe très interdisciplinaire. On a des anthropologues, des historiens, des musicologues, des historiens d'art, mais on a aussi quelques journalistes, une photographe, des gens venus d'horizons très très différents, ce qui nous permet en fait d'élaborer notre projet autour d'une mutualisation du recueil d'archives. En gros, on va tous travailler sur nos terrains géographiques. Toulouse aujourd'hui, c'est parce que moi j'étais toulousaine, et donc ça va nous permettre d'accumuler des données pour pouvoir un jour faire une synthèse. Et donc une mutualisation aussi de nos compétences, parce que nos univers sont différents, nos pratiques de travail sont différentes, et c'était justement cette richesse qui n'est pas facile non plus dans le champ académique en France, parce qu'on est très sectionné en disciplines, qui fait que d'habitude un historien ne parle pas à un musicologue et encore moins à un historien d'art. Donc tout ça permet de aussi rétablir un dialogue entre les disciplines sur ce projet. Alors Luc le disait, notre projet est divisé en 8 grands chantiers, on va en retrouver plusieurs aujourd'hui au sein du programme de la journée. Le premier, c'est l'historicité et la généalogie. Donc en gros, il s'agit, Luc en parlait, de mettre en lumière les différents segments du punk qui, sur 40 ans, tout en se référant à la rupture originelle et fondatrice de 1976, renouvelle le punk en tant que paradigme musical, esthétique et artistique. Le deuxième chantier, c'est le vieillissement et la mémoire, parce que bien sûr, les punks de 76, ils sont toujours là aujourd'hui. Et donc, le but, c'est de montrer comment, de quelle manière, la mémoire travaille à réactualiser la réalité et le mythe punk, et chercher à voir jusqu'à quel point une tradition peut s'inventer sur cet objet. Vous voyez bien, là, j'ai mis deux petites affiches qui évoquent parfaitement cette question du vieillissement. Le troisième chantier, c'est la médiation et la médiatisation. Le but, là, c'est de montrer que la spécificité du punk en tant que scène est d'être produit et de produire symétriquement les acteurs et les objets constitutifs et participants de cette scène. Et donc, tout ça nous permet de répondre à la question essentielle qui n'est pas évidente: qu'est-ce que le punk? Parce que c'est quand même quelque chose de fluctuant d'une génération sur l'autre. Il va y avoir des groupes qui disent qu'ils étaient punk en 76, puis qui, 20 ans plus tard, disent: nous, on n'a jamais été punk. Donc comment on fait pour travailler sur ces questions de désignation et d'autodésignation? Le quatrième chantier, c'est un chantier qu'on a appelé homologie esthétique, artistique et musicale. Donc là, il s'agit justement d'étudier les homologies repérables au cœur des différentes dimensions musicales et artistiques du punk. Le cinquième chantier, c'est la violence. Donc ça, c'est vraiment un chantier à part qui permet d'interroger le phénomène punk dans son rapport musical à la civilisation des mœurs et de voir dans quelle mesure l'expression de la violence constitue un espace de libération des émotions et donc une socialisation nouvelle ou en tout cas spécifique au punk. Le sixième chantier de recherche, c'est le corps. Donc là, il s'agit d'observer et d'analyser les cultures corporelles originales pour donner du sens aux usages qui participent à la fabrique du corps punk. On sait bien qu'un corps punk, il est globalement identifiable, qu'il y a des raisons à ça. Donc le but, c'est de travailler sur cette identification. Le septième chantier, c'est le genre. Donc là, il s'agit d'approcher la polarisation sexuée de la scène punk et d'envisager quelles frontières délimitent les territoires du masculin et du féminin, sachant qu'on pourrait penser que la scène punk, elle est plus ouverte aux femmes de par son idéologie. Or, c'est infiniment plus subtil que ça. Et enfin, le dernier chantier, qui est un chantier de synthèse, c'est d'arriver à cartographier le punk en France, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, d'analyser le fonctionnement d'un système qui se constitue en réseau et de cartographier finement les évolutions à la fois géographiques et spatio-temporelles, en fait, sur une longue durée. Alors, oula, pardon, bon, ça avance tout seul. Alors ça, vous voyez, c'est notre projet, il est structuré autour de journées d'études, dont celle de Toulouse fait partie, c'est la dernière, de, pas de la série, hein, mais c'est la dernière en date. On en a fait 8 depuis 2 ans. Alors avant, comme on n'avait pas eu de financement, on faisait des journées thématiques à Paris, au centre Barbara Fleury. Donc vous voyez, on a traité déjà un certain nombre de sujets, groupes et musiciens, le genre, les archives. Et on a eu un financement par l'Agence nationale de la recherche depuis juillet. Du coup, on a décidé qu'on allait en profiter pour aller sur le terrain, sur les scènes locales. Toulouse, ça s'est bien trouvé parce qu'on avait rencontré Monique et ça nous a permis de faire cette première journée à Toulouse. On a prévu de partir dans toutes les villes de France.
Voilà, on va tourner avec un bus.
On va tourner.
Ce qui est important à souligner, c'est que, parce que c'est ce que je disais par rapport à la dimension académique, l'intérêt de ces journées-là, c'est qu'on n'est pas entre universitaires. Hein, alors d'abord, on arrive avec plus de questions. Hein, on a beaucoup moins de réponses, mais on a beaucoup de questions. Et on a tenu à ce que ce travail-là se fasse en collaboration avec les acteurs de la scène punk. Et le fait d'installer, par exemple, à Paris, ces journées d'études au Centre Barbara et de ne pas les faire à l'université, c'est un vrai choix. Hein, c'est le choix qui a permis de commencer à tisser des liens assez étroits avec la scène punk, concrètement.
Du coup, pendant 4 ans, on va mener 4 journées d'études thématiques à Paris et on fera 4, peut-être un peu plus, on verra, oui. Journées d'études géographiques. L'année prochaine, de mémoire, on va aller à Caen,
à Rennes,
à Montaigu en Vendée et on verra où ça nous emmène, là où il y a des acteurs prêts à nous parler, où on peut organiser quelque chose. Donc, on verra bien. Voilà, ça c'est tout ce qu'on a prévu dans le cadre du projet. Donc à la fois de la valorisation scientifique à l'aide de colloques, journées d'études, dissémination en France et puis livres. Et puis la vulgarisation avec des ouvrages de vulgarisation, les expositions. On a déjà commencé pour le dernier colloque avec une expo de photographie de Sourinski qui nous a fait une très belle expo sur la scène punk actuelle au 21e siècle. Et un site internet qui est en cours de construction, qui va bientôt marcher, qui portera en fait au fur et à mesure les fruits du projet. Notamment les journées d'études, on pourra les réécouter, il y aura quelque chose de vivant qui permettra que vous soyez tenus informés de l'avancée de notre projet.
Voilà, alors vous entendrez souvent parler de PIND, hein, Punk is not dead. Donc PIND, c'est quoi?
Alors c'est l'acronyme de Punk is not dead.
Punk pas mort.
C'est le nom d'un projet de recherche consacré à l'histoire de la scène punk en France depuis 1976 jusqu'à nos jours.
Un retour vers No Future qui interroge l'existence et les conditions d'existence de la scène punk en France depuis 40 ans.
Ça parle de musique et de musiciens, d'artistes et de visuels, de la débrouille et de la vie sur scène ou au squat, d'une création en résistance à Caen, Rouen, Paris, Toulouse, Fumel, Bordeaux, Rennes, Montaigu, Lyon, Saint-Étienne.
Ça parle des marges et d'un regard sur l'autre.
Ça parle de la vie, de la poésie et du corps, de la danse et des manches de guitare, des tatous et des marques, des filles et des garçons, de la dope et des avenirs qui en meurent, de la jeunesse et de la vieillesse qui surprend toujours en creux ceux qui pensaient ne pas survivre à nos futurs.
Ça parle de 77, des années 80, 90, 2000, 2010. Ça parle d'aujourd'hui et sans doute de demain.
Ça cherche, ça discute, ça polémique, ça gueule, parfois, souvent même, mais toujours pour comprendre.
Bref, un truc essentiel, piloté et mis en musique par des chercheurs et des musiciens.
Une équipe terrible et très très motivée.
Do it yourself, just take a look et bonne journée d'études.